Les nuits de France Culture. Des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, certes. Mais on l'oublie trop souvent, un film, ça s'entend aussi avec les yeux et ça se voit également avec les oreilles, même si le son est bien souvent le grand oublié des conversations d'après-projection. Pourtant, combien de films doivent, pour une bonne part, à la créativité de leur bande-son d'être restés gravés dans nos mémoires ? Apocalypse Now, par exemple, auquel des pales de ventilateurs et d'hélicoptères et The End des Doors auront peut-être bien ouvert la voie vers la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1979. De l'importance de la création sonore dans la réalisation d'un film, on devrait être convaincu en écoutant l'archive qui va suivre. En 2001, alors que du film de Francis Ford Coppola était présenté à Cannes une version plus longue pour laquelle le montage du son avait été tout particulièrement retravaillé, Pierre Rissian invitait les auditeurs de Carnet de notes à plonger dans la bande son de cette version dite « Redux ». Une version dont la qualité sonore, dont le nouveau mixage transfigurait le film, en enrichissait la narration et en décupler la puissance esthétique au moins tout autant que l'intégration des séquences qui avaient été coupées du montage en 1979. Carnet de notes, Tu vois ce que j'entends, Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, première diffusion le 9 mai 2001 sur France Culture.
Et oui, Philippe Langlois, vous allez nous parler de la bande-son du film de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now.
En effet, Patricia, Apocalypse Now est sous les feux de l'actualité, puisque le 54e Festival de Cannes, qui ouvre tout juste ses portes, a programmé Apocalypse Now au festivalier pour la sortie nationale qui est prévue le 11 mai prochain. 22 ans après avoir remporté la Palme d'Or, une Palme d'Or décernée ex aequo avec le film de Volker Schlöndorff, Le Tambour, Apocalypse Now nous est présenté dans une nouvelle version. Le film s'appelle désormais Apocalypse Now Redux, une version qui rallonge de presque une heure la descente aux enfers de Willard, alias Martin Sheen, dans l'enfer du Nord-Vietnam. Apocalypse Now Redux a donc subi un remontage complet de certaines parties du film, un travail que Coppola a effectué avec son chef opérateur de l'époque, Vittorio Storaro, ainsi que Walter Murch, qui avait initialement monté et réalisé tout le sound design. Nous aurons également le plaisir d'entendre Pierre Rissian, l'un des sélectionneurs officiels du festival, au sujet du son et de la musique totalement absente du palmarès de Cannes. Apocalypse Now est une plongée dans l'horreur de la guerre du Vietnam. C'est également une immersion totale dans l'univers sonore de cette guerre. Le bruit des hélicoptères qui balayent sans cesse les airs, les présences sonores de la jungle ou de la nuit, le rock également très présent dans la bande-son et la musique de Carmine Coppola, le père de Francis Ford Coppola. Bref, autant d'éléments sonores omniprésents dans la bande-son qui se mêlent subtilement pendant toute la durée du film. Apocalypse Now débute sur l'image d'une forêt dévastée par un bombardement au napalm, accompagnée d'une chanson mythique des Doors. Avec cette chanson, on peut immédiatement percevoir que le film est un immense flashback en raison de son titre implicitement évocateur, The End. Jim Morrison, The Doors, The End.
This is the end, beautiful friend. This is the end. Friend, the end of our love.
Tu vois, ce que j'entends pousse un énorme cri de mécontentement, car l'effet sonore désagréable que vous pouvez percevoir dans l'enregistrement que nous entendons, sous la forme de baisse et de hausse subite du son, est dû à une pratique fortement condamnable et que l'on retrouve malheureusement trop souvent sur certains DVD. En fait, ce mauvais contrôle de la dynamique est dû à une grosse erreur de manipulation au moment du mixage. Les techniciens, responsables du report sonore sur le DVD, ont utilisé un compresseur pour remonter le niveau des graves sans visiblement savoir comment fonctionnait cette machine. Il ne suffit pas de brancher ce compresseur pendant toute la durée du film, il faut au contraire en ajuster constamment les niveaux d'entrée sur la table de mixage en fonction du son qui passe. Il est à notre avis totalement inacceptable que pour réaliser des économies de bout de chandelle, le travail des créateurs soit détruit par des ingénieurs du son qui sont sourds puisqu'ils ne se rendent même pas compte d'une telle erreur à la relecture. Voilà, ceci dit, replongeons dans la moiteur chaude d'Apocalypse Now, où justement dans la version Redux, le son a été entièrement retravaillé par Walter Murch. Comme nous l'avons dit, la bande-son du film est une véritable partition sonore qui prend en compte les différents éléments auditifs de cette guerre. Les sons d'hélicoptères, omniprésents dans la bande-son, ont été travaillés, transformés par Walter Murch, jusqu'à devenir un élément récurrent du film. Complètement stylisés, ces sons sont ensuite intégrés dans la musique de Carmin Coppola, relayés par les images d'hélicoptères décollant à l'aube avant de partir à l'attaque. D'ailleurs, pour cette célèbre scène, où la musique de Wagner est utilisée, on pense immédiatement à l'influence de Stanley Kubrick. Le décalage produit entre cette musique romantique et l'action guerrière est évidemment très efficace. Elle nous renvoie directement à des films tels 2001 ou Orange Mécanique. Voici l'ouverture de cette scène. Walter Murch et Francis Ford Coppola ont pris le parti de pousser un peu plus loin le travail traditionnel du son au cinéma. Cette approche nous permet d'entrer véritablement dans la psychologie du film et des personnages. Grâce à la construction sonore de Walter Murch, il nous fait entrer dans ce que Willard perçoit intérieurement. C'est ainsi que pendant tout le film, nous suivons son parcours mental, de quelle manière par exemple il se coupe de la réalité sonore pour entrer dans une réalité intérieure entièrement recomposée. À l'intérieur de sa tête se déploie toute sa lucidité, toute sa folie, tous ses cauchemars. Nous allons écouter une séquence du film et la commenter pour vous montrer la subtilité d'un tel travail. La scène se déroule à bord du patrouilleur. Willard consulte le dossier du colonel Kurtz, LOL, l'homme qu'il doit éliminer. L'un des membres d'équipage joue avec des baguettes sur le bastingage du navire. Évidemment, on entend également le bruit du moteur. En fait, nous nous trouvons là dans la réalité sonore de la scène. C'est ce que l'on appelle le son in.
Sur les hauts plateaux, la patrouille de Kurtz tombe dans de fréquentes embuscades. Les camps commencent à se désagréger.
Lorsque nous pénétrons dans les pensées de Willard, son univers intérieur est symbolisé par l'arrivée d'une trame de son aigu. Aussitôt, le bruit des baguettes et ceux du moteur s'éloignent, comme si Willard quittait peu à peu la réalité sonore du bateau pour rejoindre ses pensées. Les trames sonores se précisent, nous sommes alors totalement déconnectés de la scène du bateau. On n'entend plus qu'un vague vrombissement qui nous rattache encore au bruit du moteur. Le son des baguettes disparaît progressivement, une mélodie à la flûte apparaît.
S'est engagé dans les forces spéciales. Et après ça, c'est...
L'armée essaya une dernière fois de le remettre au pas.
Ils sont devenus...
Et s'il s'était rangé, elle aurait passé l'éponge.
Malsaine.
Voici ensuite une nouvelle étape dans la pensée de Willard, avec une sorte de flashback intérieur. Il entend les voix de ses supérieurs lui parlant de Kurtz. Nous entrons dans une troisième réalité audiovisuelle. Entre la voix intérieure de Willard et celle des militaires, vous pouvez entendre de quelle manière ces voix sont montées pour s'entremêler, se mélanger, d'une manière quasiment rythmique. C'est une technique propre au théâtre radiophonique.
Plus rien, si ce n'est des rumeurs, de vagues renseignements provenant des prisonniers Vietcong. Maintenant, les Vietcong le connaissaient de réputation, et ils en avaient peur. Kurtz et ses hommes...
Le son des baguettes réapparaît, ainsi que des bribes de phrases. Peu à peu, Willard revient dans la réalité du bateau. Les trames aiguës disparaissent, le moteur retrouve son niveau d'origine. De nouveau, nous pouvons suivre ce qui s'y déroule.
Pour dîner avec le président des États-Unis. Oui, mon pote. Moi, en tout cas, c'est là que je vais.
Chef, dis-lui d'arrêter. Clean.
Que joue la musique de Carmine Coppola est également très important. C'est grâce à cette musique que nous pénétrons progressivement dans la lente folie du film. Les sonorités de synthétiseurs analogiques génèrent ce caractère onirique si particulier. En ce sens, la musique traduit la folie, l'horreur, la descente aux enfers. Cet aspect musical, franchement psychédélique, est également présent pour matérialiser l'état d'esprit de ces hommes qui ne cessent d'absorber des drogues hallucinogènes tout le long du voyage. Les sonorités étranges, les timbres glissés, les mélodies désaccordées concourent à créer ce climat d'angoisse, d'étrangeté, cette sensation de malaise. Pour réaliser Apocalypse Now, Walter Murch s'est emparé de tous les éléments de la bande sonore. Les voix, la musique originale, la musique additionnelle et les bruits naturels. La bande-son est ainsi une véritable partition sonore où les sons se tissent entre eux. Avec cette approche, Walter Murch parvient à littéralement emmener le spectateur, à le faire glisser lentement jusqu'à le fondre entièrement dans l'atmosphère du film. Comme je vous le disais, il se sert également des sons naturels pour construire une trame de bruitage qui soutient totalement l'action en cours. Dans cette scène, par exemple, où Willard et le chef sont partis chercher des mangues dans la jungle, Walter Murch multiplie le bruit des insectes, et ce jusqu'à traduire la peur intérieure des personnages qui viennent tout juste d'entendre quelque chose. Comme chaque année, au moment du Festival de Cannes, Tu vois ce que j'entends s'étonne de l'absence de récompense dans le domaine du son. La prise de son, le montage sonore et la composition musicale sont pourtant autant de métiers où s'exerce parfois le travail de certains créateurs géniaux. Quelques jours avant son départ pour Cannes, nous sommes donc allés voir Pierre Rissian, dont l'une des nombreuses activités est de participer aux côtés de Gilles Jacob à la sélection officielle du festival, pour lui demander les raisons de cette absence de récompense au palmarès de Cannes. Pierre Rissian.
Et moi, je ne peux pas vous répondre complètement. J'approuve complètement ce que vous dites, effectivement. Mais ceci dit, je pense qu'il a dû y avoir des films qui ont été récompensés par le prix de la Commission supérieure technique qui incluait le son. Alors, c'est-à-dire le son, c'est aussi de par la prise en direct du son, éventuellement. Ça peut être aussi, comme chez par exemple certains cinéastes, comme Jacques Demy ou Jean Gourman, qui reconstituent tout le dialogue en post-synchronisation. Et c'est aussi une autre façon d'être très créatif. Ça peut être effectivement le montage son, ça peut être le mixage. Donc, le son, il n'y a pas. Le son, ça couvre plusieurs opérations. À la limite, ça couvre presque plus d'opérations que l'image. Parce que l'image, disons, en général, il y a deux personnes à l'image, le chef opérateur et le cadreur, parfois c'est le même, mais est-ce que dans le son, effectivement, si on pense à tous les gens qui interviennent tôt ou tard sur le son, il faut y ajouter le musicien, il y a au moins 5 ou 6 personnes qui participent au son. Alors est-ce que c'est à cause de ça qu'il est plus difficile de désigner qui est responsable du son? Donc on n'en finirait pas de parler de cette synthèse impérative qu'il doit y avoir entre effectivement l'image et le son. Ce qui irrigue l'un vers l'autre et l'autre vers l'un, c'est une chose qui est, à mon avis, très mystérieuse. Je ne dirais pas alchimique, mais qui est quand même très très mystérieuse. D'ailleurs, avec les perfectionnements techniques, le son est devenu de plus en plus important. Par exemple, si on voit un film des années 30 ou des années 40, quelles que soient les grandes beautés que peut avoir un film, souvent on regrette que le son n'était pas meilleur. Alors que l'image, souvent, était, surtout les noir et blanc, bien sûr, sur la couleur, c'était moins évident que la couleur était tout à fait au point et contrôlable à l'époque. Mais il y a des films en noir et blanc, quand on peut voir des copies tirées du négatif original, que ce soit des films muets ou des films du parlant tôt, on peut dire qu'il n'y a rien de supérieur, je veux dire, en tout cas esthétiquement, et même au niveau du rendu d'une photo. Tandis que c'est vrai que le son, on pourrait argumenter que, bon, bah, il est un petit peu pâteux, un petit peu confus. Alors c'est vrai que le mixage, en tout cas, la prise de son en direct un peu plus tôt, mais le mixage, sont des choses qui ont commencé dans les années 60. Alors bon, même si on est pratiquement 40 ans plus tard aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu une routine de ne pas avoir révisé ces valeurs. En tout cas, de toute façon, vous avez raison de lever le point d'interrogation, et ce que je peux dire, battez-vous pour que dès cette année, le prix du jury aille au son comme une sorte de bande-annonce sur peut-être le palmarès des années futures. Mais cela dit, il ne faudrait pas non plus que ça soit ça se retourne contre l'image. Et pour lui, il faut saluer les deux.
Voilà, juste avant de nous quitter, je vous propose de découvrir un très court extrait du thème que Carmine Coppola avait composé pour la première version du film. Un thème qui n'avait pas servi compte tenu des coupes dans la première version et que Francis Ford Coppola a exhumé des tiroirs de son père. Il s'agit de la scène de la fin de La Plantation française lorsque Roxane Sarro, interprétée par Aurore Clément, emmène Willard dans sa chambre pour fumer l'opium. C'est sur cet extrait tiré de la nouvelle version d'Apocalypse Now que cette émission s'achève. Une émission qui, je l'espère, vous aura donné envie de découvrir cette nouvelle version. Une version qui, contrairement à ce qui a pu être dit, ne ralentit pas le film, mais lui donne au contraire un tout nouveau rythme. Merci à Antoine Guillot qui a participé à cette émission. Merci également à Sophie Moreno pour le mixage. Réalisation Gilles Mardi-Rossian. Tu vois ce que j'entends, une émission de Philippe Langlois.
Cette émission a été diffusée le 9 mai 2001 sur France Culture.